Souvenirs sur l'affaire. Chapitre 6. Je viens de faire une nouvelle allusion au discours de Cavaignac. C'est un des épisodes, ou plutôt l'un des moments, sur lesquels j'ai besoin de revenir avant de terminer ces confidences. J'ai dit, et je redis encore, que je n'essaie pas d'écrire, pas même de dessiner une histoire. Je me défends de rechef d'une telle ambition, et j'ai pris la précaution décisive contre moi-même, puisque je me suis astreint à ne consulter que mes seuls souvenirs et que je me suis tenu parole. Je laisse le passé se reformer spontanément dans ma mémoire, mon unique effort étant d'en réchauffer les cendres par les émotions que je retrouve ardentes en moi. Je voudrais tant faire sentir, et s'il se peut, faire comprendre ce qu'a été le dreyfusisme pour les premiers dreyfusards. J'ai expliqué notre attente dans ce qu'elle avait d'avide, d'enthousiaste, de naïf, notre stupeur devant cette résistance qui s'élevait de terre sous nos pieds et dont nous ne devions reconnaître que lentement les origines. J'ai montré comment nous fûmes engagés, sans notre aveu, presque à notre insu, dans une lutte qui sépara, mêla, refondit tout autour de nous. Je ne veux plus, pour achever, qu'évoquer les heures de cette lutte qui sont restées pour moi les plus intenses. Et je m'aperçois que les plus intenses ont été les plus atroces. Oui, celles qui me font encore frémir, après tant d'années. Celles où mes amis les plus proches et moi avons cru que la résistance l'emportait une fois pour toutes, que tout était fini, que tout était perdu. Nous avons connu deux fois cet accablement, qui semblait interrompre la vie, frapper le monde d'une malédiction, après le discours de Cavaignac et, 6 mois auparavant, après l'acquittement d'Esterhazy. Il faut bien saisir l'état des choses. La presse dreyfusarde, après avoir énoncé ou insinué les présomptions négatives de l'innocence, avait livré à son corps défendant la preuve positive. Elle avait dénoncé Esterhazy. Le ministère Méline et l'état-major répondirent aussitôt par un coup droit. Ils ouvrirent une information contre Esterhazy et le traduisirent devant un conseil de guerre. À compter de ce moment, la position juridique était renversée. La révision de la sentence qui avait frappé Dreyfus se trouvait suspendue à l'arrêt du conseil de guerre qui allait juger Esterhazy. Si le Uhlan était condamné, et condamné pour le crime même dont Dreyfus avait été déclaré coupable, le fait nouveau exigé par la loi résultait de la contradiction entre deux choses jugées. La révision s'imposait, elle devenait automatique. Mais si Esterhazy était acquitté, oh, alors Dreyfus était condamné pour la seconde fois. Une seconde chose jugée s'opposait, comme la première, à la campagne de révision. Nous avions soutenu que Dreyfus était innocent parce qu'Esterhazy était coupable, que Dreyfus ne pouvait pas avoir écrit le bordereau puisque le bordereau était l'œuvre d'Esterhazy. Une décision souveraine de justice proclamerait au contraire qu'Esterhazy était innocent, c'est-à-dire que Dreyfus était coupable, que le bordereau n'était pas l'œuvre d'Esterhazy, c'est-à-dire qu'il avait été écrit par Dreyfus. Comment forcer après cela l'inertie savante de Méline répétant tenacement « Il n'y a pas d'affaire Dreyfus ». au regard des juristes, son attitude deviendrait inexpugnable. Comment ramener à nous l'opinion après qu'un second conseil de guerre, comprenant un nombre égal d'officiers français, statuant, lui, en pleine connaissance de cause, aurait corroboré, homologué le jugement du premier. Nous comprenions bien que l'état-major venait de risquer un coup de parti, de jouer le tout pour le tout. Mais pas un instant, nous n'eûmes l'esprit seulement touché par l'idée que l'acquittement d'Esterhazy fût possible. C'est entendu, Esterhazy serait jugé à huis clos, comme l'avait été Dreyfus il y a 4 ans. Mais cette fois, l'opinion était en éveil, la critique vigilante. Les juges étaient avertis et ne se laisseraient pas surprendre ou duper comme les juges de Dreyfus. Les spécimens d'écriture seraient là, étudiés par d'autres experts et saisissant le conseil de leur évidence. Le petit bleu serait là. Mais surtout, Picard serait là, car on ne pouvait songer à esquiver son témoignage et on l'avait en effet rappelé de son exil. Picard serait là, enfin délié de son secret. Il parlerait librement, face à face, à des juges militaires qui étaient ses camarades, et il ferait éclater la vérité. Nous nous réjouissions en sourdine que la décision de Méline et de l'état-major procura si simplement le résultat auquel nous nous étions acharnés en vain, lancer Picard en plein courant de l'affaire. Certains d'entre nous, les incorrigibles, concluaient sur un ton de sévérité. Vous voyez bien, pourquoi crier tant contre Méline? Pourquoi déblatérer contre les grands chefs? Ils savent bien qu'Esterhazy sera condamné, et c'est cette condamnation qu'ils cherchent. Ils ont choisi ce détour pour préparer la révision en douceur. C'était peut-être la meilleure voie. Voilà dans quel enchantement d'espoir nous nous complaisions. L'acquittement d'Esterhazy, à l'unanimité sans discussion, tomba sur nous comme un coup de massue. Qu'allions-nous devenir? Qu'allions-nous faire? L'innocence d'Esterhazy était juridiquement reconnu. Le témoignage de Picard était disqualifié. La révision devenait impossible. Elle se heurterait désormais à un système de résistance clos, complet, parfait. Nous restions là, atterrés, désespérés, devant les débris de notre œuvre rompue entre nos mains. Ce fut un de ces moments où toute croyance se retire, où l'on se sent isolé et perdu dans un monde à jamais hostile, où l'univers même paraît se dépeupler, se vider. Comme tous les hommes, j'ai connu dans ma vie un certain nombre d'heures semblables à celle-ci. Il existe pour moi quelques maîtres mots qui en expriment la désolation, qui me reviennent mécaniquement à l'esprit chaque fois qu'un écart béant se creuse ainsi entre la réalité et les constructions de la pensée ou du rêve. Ils n'ont certainement cette valeur que pour moi seul. Je les transcris cependant. C'est une phrase de Guerre et Paix que j'avais lue, adolescent, dans la vieille traduction de Hachette. Tout était si étrange, si différent de ce qu'il avait espéré. J'étais au plus profond de cette dépression quand l'aspect des choses changea soudain. Ce système de la résistance, clos, complet et parfait, une explosion venait de le bouleverser. Un point énergique venait de briser les vitres dans cette chambre verrouillée où la cause de la révision était condamnée à l'asphyxie. L'Aurore avait publié le J'accuse de Zola. J'habitais alors un rez-de-chaussée, en haut de la rue du Luxembourg, dans l'axe de l'allée de Platane qui débouche vers la rue d'Assas. Au coin de la grille du jardin, s'élevait la cabane en planche d'un marchand de journaux, le père Granet. J'ignorais jusqu'alors que mon marchand de journaux fut Dreyfusard, comme mon dentiste, mais je me rappelle parfaitement le matin d'hiver où le père Granet, frappant du dehors à mon volet, me réveilla en s'écriant « Vite, monsieur, lisez ça, c'est un article de Zola dans l'Aurore ». J'ouvris en hâte ma fenêtre et je pris des mains du père Granet le journal qu'il me tendait. À mesure que je lisais, il me semblait absorber un cordial puissant. Je sentais remonter en moi la confiance et le courage. Allons, ce n'était pas fini. La défaite subie n'était pas sans remède. On pouvait encore se battre, on pouvait encore vaincre. La résistance ne survivrait pas au coup massif que Zola lui assenait. Sous la forme d'un réquisitoire terrible, qui ne ménageait plus rien, qui désignait enfin par leur nom les faits et les hommes, le « j'accuse » contenait l'appareil complet, cohérent de la démonstration dreyfusarde, ce que Barrès nous avait tant reproché de démembrer bribe par bribe et de distiller goutte à goutte. Comment l'opinion ne céderait-elle pas à cette évidence? Comment ne serait-elle pas touchée, conquise, par la vaillance tranquille et magnifique avec laquelle l'auteur de J'accuse s'exposait? Je n'ai pas relu J'accuse depuis de bien longues années. Je sais cependant que ces quelques pages sont, au sens propre de l'expression, un chef-d'œuvre. Un article de journal peut être un chef-d'œuvre. Une page de prose peut être un chef-d'œuvre aussi bien qu'un court poème. La dimension ne fait rien à l'affaire, pas plus que le temps. Il existe une littérature dreyfusarde qui laissera les chefs-d'œuvre. Le J'accuse est du nombre, avec M. Bergeret à Paris et l'oraison funèbre de Zola, avec le journal de Jules Renard, avec le chapitre de Marcel Proust, où Swann apparaît à la fête du prince de Guermantes, avec l'épreuve de Jaurès, avec cet étonnant Jean Barois, où l'atmosphère dreyfusarde, l'âme dreyfusarde, sont recomposées en dehors de toute impression directement reçue, Roger Martin Dugard était trop jeune, par la seule intuition de l'art. Car, plus puissant en cela que la science, l'art reconstitue la vie. Je me demande, en y pensant, si pleine justice a été rendue au Zola de l'affaire. Il y a l'oraison funèbre d'Anatole France, je ne l'oublie pas. Mais en dehors de France, a-t-on bien senti, a-t-on assez dit que l'acte de Zola fut vraiment celui d'un héros? Il faut considérer que Zola n'était plus jeune, qu'il était parvenu à l'extrémité d'une carrière violente, faite de risques, d'entreprises et de défis. Avec un parti pris de révolte froide et méthodique, il avait bravé toutes les formes de la convention, les règles, les usages, le goût, la pudeur. Chacune de ses œuvres de romancier, chacune de ses campagnes de critique avait été une bataille. À force d'obstination et de tempérament, comme il disait lui-même, il avait fini par jeter à bas tous les obstacles. Il avait conquis le public, conquis la fortune, conquis la notoriété européenne, conquis de haute lutte les honneurs qu'il ne goûtait pas, mais que par principe et par point d'honneur, il estimait lui être dû. L'Académie lui manquait seule, mais ce n'était plus que l'affaire d'un peu de patience. Il s'était installé dans sa victoire, il en jouissait, non sans un peu de satisfaction bourgeoise qui lui était venue avec le repos, après fortune faite. Et voilà qu'il aventurait d'un coup la récompense de 40 ans de travail, qu'il se jetait à corps perdu dans une bataille plus âpre, plus dangereuse que toutes les autres. Voilà qu'il s'exposait de nouveau à toutes les haines, à tous les outrages. Tout cela sans nul intérêt touchant sa personne, ses opinions, son métier, sans nul souci de tapage et de gloriole, comme on l'a supposé bassement. Grand Dieu, on avait déjà fait assez de bruit autour de son nom. Mais par un besoin de révolte encore inépuisé, par une sorte d'intolérance physique du mensonge et de l'injustice. Il ne s'exposait pas seulement par métaphore, il exposait réellement sa personne. Il appelait sur lui l'attentat, la prison, l'exil. Plus je réfléchis, plus je pèse et plus j'admire le Zola de l'affaire. Mais alors, la violence avait faussé toutes les mesures. Pour les Dreyfusards, Zola était moins un héros qu'un allié inattendu et inestimable. Pour les adversaires, il était un métèque, un perverti à demi dément, un agent vénal du syndicat. De part et d'autre, la passion avait rendu insensible à la grandeur. Je ne m'étais pas mépris dans ma lecture matinale. Le père Granet ne s'était pas trompé. Le J'accuse bouleversa Paris en une journée. L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. Le dreyfusisme était regonflé. Nous sentîmes refluer, remonter en nous la confiance, tandis que les adversaires accusaient le coup reçu par leur fureur. Fureur bienheureuse qui aboutit aux poursuites et aux procès. Bien entendu, le vieux Méline, fidèle à sa tactique redoutable, ne voulait pas poursuivre. Il pénétrait fort bien le dessein, d'ailleurs apparent, de Zola. En même temps qu'une somme d'épreuves, qu'une prise à partie des coupables, qu'un cri déchirant d'appel, le J'accuse était un défi, une provocation calculée pour contraindre précisément aux poursuites, pour ouvrir par effraction le procès public qui annulerait l'acquittement secret d'Esterhazy. Ni Méline, ni, je pense, l'état-major n'étaient enclins à tomber dans ce panneau. Le numéro de l'Aurore avait fait un vacarme diabolique. Un souffle de tempête agitait à nouveau l'opinion. Soit, mais la conduite prudente était de laisser passer, de laisser tomber. Au bout de quelques semaines, le vacarme et l'agitation s'apaiseraient. Zola serait réduit au rôle ridicule de l'homme qui veut à toute force être traduit devant les juges, mais qu'une justice dédaigneuse laisse paisiblement chez lui. Aux clameurs affaiblies de la polémique dreyfusarde, le gouvernement répondrait avec plus de tranquillité que jamais « Il n'y a pas d'affaire Dreyfus ». Dreyfus a été condamné par ses pairs. Vous avez prétendu qu'il avait été condamné faussement pour le crime d'un autre. Eh bien, je vous ai donné librement la plus généreuse satisfaction. J'ai poursuivi cet autre, et ses pairs l'ont acquitté. Deux choses jugées se superposent désormais. Mon rôle est fini. Vous ne tirerez plus de moi un geste. Et certes, si Méline et l'état-major s'étaient renfermés dans ce raisonnement invincible, s'ils s'étaient dérobés à tout contact, à toute prise, l'aventure héroïque de Zola aurait fini par s'éteindre dans la lassitude et l'épuisement. Mais le vieux Méline, prudent comme Nestor, dut céder à la colère vengeresse des boulangistes et des droitiers qui se sentaient déjà les maîtres. La chambre l'interpella. Un remous de séance emporta ses sages calculs. Albert Demain l'obligea à lâcher le lest des poursuites. Les membres du conseil de guerre, devant qui Esterhazy avait comparu, accusés par Zola d'avoir acquitté par ordre, furent chargés de déposer la plainte. La plainte ne fut pas déposée par les membres du conseil de guerre, mais par le ministre de la guerre agissant en leur nom, ce qui était contraire à la loi et rendait nulle toute la procédure. Après la condamnation de Zola, ce moyen fut relevé devant la cour de cassation par maître Mornard, ce qui permit le premier succès dreyfusiste auprès de la Cour suprême. Mon erreur m'a été signalée par maître Gutschow-Brunswig, qui était alors un des collaborateurs de maître Mornard. Le procès Zola s'ouvrit à Paris en audience publique. Le désastre était donc réparé. Avant même que la cause fût appelée, Zola avait réussi son coup héroïque. J'essaie en vain de me rappeler par quelle filière ou sur quel conseil Fernand Laborie fut désigné comme défenseur de Zola. Oh, j'ai dû le savoir, je l'ai oublié. La notoriété d'avocat de Laborie commençait à dépasser le palais. Son ambition, encore indécise, était attirée par la politique et par les lettres. Il préparait, à Reims, une candidature modérée et il avait fondé quelques années auparavant la revue mensuelle qui est devenue plus tard la Grande Revue. Ce choix aurait pourtant déçu notre camp révolutionnaire si nous n'avions pensé que les deux frères Clémenceau, Georges et Albert, qui eux défendaient l'Aurore, s'étaient réservés les grandes opérations d'attaque. J'étais en ce temps un juriste passable, bien que spécialisé dans une autre branche du droit. J'appartenais à une grande magistrature. Je pouvais donc assumer quelques travaux utiles et je me mis aussitôt à la disposition de Laborie. Bien des matins, je fis le trajet de la rue du Luxembourg à l'appartement de la rue de Bourgogne où il venait de s'installer. Ma tâche du moment m'était distribuée tantôt par lui, tantôt par l'un de ses collaborateurs, Hilde et Monira. J'étais chargé d'étudier certains points litigieux de droit criminel, de préparer d'avance la riposte à quelques-unes des difficultés que ne manquerait pas d'opposer la Cour ou le ministère public, et certaines des conclusions dont il fut fait pendant le procès une consommation si abondante sont plus ou moins littéralement mon œuvre. J'ai donc coopéré, bien qu'obscurément, à la préparation technique du procès. J'ai assisté à presque toutes ces audiences, et je ne veux pas le raconter plus que le reste. Je m'essaie seulement à faire sentir dans quelle disposition d'esprit je le suivais. Le spectacle était dramatique, grandiose. Mais, somme toute, ce n'est pas au spectacle que j'étais vraiment sensible. Sans doute, je le percevais, il pénétrait en moi. Je participais au mouvement de foule qui, à chaque incident, dressait face à face et menaçait de jeter les uns sur les autres les hommes de la révision et les hommes de la résistance. J'étais pris, comme mes amis, dans les courants soudains qui parcouraient la salle des assises et ses entours, le palais et ses abords, dans ces houles irrésistibles dont je n'ai reconnu l'image depuis lors que dans de grandes journées de passion populaire. Je retrouve en moi, à peine altéré par le temps, la puissance pathétique de certaines scènes. L'apparition de Picard, sa première apparition publique, le terrible interrogatoire administré par Albert Clemenceau à Esterhazy muet, l'interpellation du général de Pellieu au jury. « Voulez-vous que nous conduisions vos enfants à la boucherie ?» Ce Pellieu, soit dit en passant, frère du baron qui enseigna l'arithmétique à tant d'élèves de Henri IV, était un fort honnête homme, et sa tirade faisait d'autant plus d'effet qu'elle était lancée de bonne foi. Donc, tous ces tableaux ont conservé dans ma mémoire leur couleur, leur animation, leur force. Mais le procès, pour moi, ce n'était pas cela. Ce à quoi je m'attachais de toute ma présence, de toute mon attention, ce sur quoi mon intelligence et mon âme étaient entièrement fixées, c'était le cheminement de la preuve, c'était la progression logique de la vérité. Oui ou non, le procès Zola allait-il fournir l'évidence publique? Oui ou non, allait-il casser la décision qui avait acquitté Esterhazy, annuler l'effet moral, sinon l'effet juridique de la sentence? Oui ou non, allait-il créer, en faveur de la révision, une sorte d'obligation, la nécessité rationnelle à laquelle les forces de résistance seraient tôt ou tard obligées de se soumettre? Voilà les questions qui dominaient pour moi toutes les autres. Je puis même dire qu'elles se posaient seules à mon esprit. J'étais penché sur les débats comme le savant sur le creuset d'une expérience. À mesure qu'il se développait, je me demandais même si le procès Zola n'était pas déjà par lui-même et à lui tout seul le procès de révision. Et tel sera bien, je crois, le jugement de l'histoire. Le vrai drame était là, non pas dans telle ou telle péripétie d'audience, dans telle ou telle confrontation à grand apparat, mais dans cette marche de la vérité, s'avançant pas à pas, puis s'emparant soudain d'un avantage imprévu et décisif, bouleversant les machinations du mensonge comme la sortie d'une garnison bouscule les travaux de sape et de mine. Zola fut condamné par le jury, mais peu importait. Nous étions convaincus que le procès Zola avait décidé de l'affaire. C'est moi qui en rendis compte dans la revue blanche. Je n'ai pas voulu relire mon article, pas plus que le reste. Mais je sais ce qu'il est sans l'avoir relu. Un état des résultats acquis, un bilan des faits démontrés, une table de rapprochement et de concordance. Les chefs de la résistance, comprenant enfin leur faute, avaient eu beau se débattre pour circonscrire le procès dans son cadre strict, la plainte d'un conseil de guerre accusé d'avoir acquitté par ordre, la cour et le ministère public avaient eu beau se multiplier pour ramener la défense à la question étant « Pouvez-vous justifier d'un ordre précis enjoignant au conseil de guerre d'acquitter ?» Toute l'affaire était passée par la brèche ouverte dans le système de Méline. Les affirmations essentielles de Zola étaient vérifiées par débats contradictoires et publics. L'illégalité commise au procès de 1894 était prouvée, ce qui suffisait pour imposer la révision. L'absurdité de l'attribution du bordereau à Dreyfus était démontré. Les trames de l'état-major contre Picard étaient découvertes. Les charges pesant sur Esterhazy s'étaient assemblées avec une pesante probabilité, pour ne pas dire avec certitude. On avait vu, en chair et en os, face à face, Picard d'un côté, le Hulan de l'autre. On avait pu juger et comparer. Pour arracher le verdict de condamnation, il avait fallu, somme toute, recourir à un dossier secret, tout comme en 1894. En désespoir de cause, le général de Pellieu était venu déclarer au jury, avec son accent d'honnête homme, « Il existe à l'état-major une preuve sans réplique, un document portant le nom même de Dreyfus. On ne peut pas vous le montrer, les conséquences seraient trop graves. Mais moi, j'atteste que je l'ai vu. »